Conscience du corps en posture assise. De même que le corps est posé sur le coussin, nous laissons l'esprit se poser sur le corps. De même que le corps est à la fois droit et détendu, nous trouvons une rectitude naturelle dans l'esprit. L'esprit s'oriente très précisément vers cet instant présent. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé, nous ne pouvons pas vivre dans le futur. Le moment présent est le seul moment où nous pouvons réellement vivre, ici et maintenant. De même que nous avons trouvé un endroit tranquille et calme pour méditer, nous établissons un calme mental en abandonnant nos soucis, nos préoccupations, nos projets, nos obligations, nos responsabilités. Nous pourrons les reprendre plus tard, mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Enfin, de même que le corps en position assise nous donne une base solide, nous établissons une base solide au niveau du mental, en formulant notre motivation, notre intention pour cette pratique, ce qui inspire cette pratique de la méditation, idéalement avec une dimension altruiste. Après avoir formulé notre motivation, nous passons lentement notre attention tout au long de la colonne vertébrale, depuis le bas vers le haut, d'une vertèbre à l'autre, en accueillant la détente qui se produit. La colonne vertébrale se redresse naturellement, jusqu'à ce que finalement, nous nous sentions comme suspendus par le haut de la tête, tandis que tout le reste du corps se détend vers le bas. Détente et rectitude. À présent, nous allons passer aux 16 étapes de l'attention à la respiration, soit 4 tétrades, telles que le Bouddha les a enseignées dans l'Anapanasati Sutta. Nous commençons par éveiller toute notre attention, pour la sentir présente, au premier plan de notre conscience. Nous prenons quelques instants pour être attentifs à l'état de l'esprit lorsque la pleine attention prédomine. Est-il plus vif, plus réceptif, plus doux, plus vaste, plus spacieux? Nous prenons simplement le temps d'être en présence de Sati, l'attention. Ayant donné à l'attention une position prédominante au premier plan de l'esprit, nous prenons maintenant conscience du processus de la respiration. Inspiration, expiration. Nous sommes simplement conscients de cette distinction fondamentale entre inspirer et expirer. Nous sommes tout le temps conscients que l'attention est focalisée sur la respiration elle-même et pas seulement sur les sensations qu'elle éveille. Pour éviter que l'esprit soit distrait, l'attention est de plus en plus centrée sur la respiration. Avec cette pratique très simple, en étant juste conscient des inspirations et des expirations, nous sommes déjà en train de pratiquer le premier facteur d'éveil, l'attention. En réalité, la pratique de l'attention à la respiration nous donne l'occasion de développer les 7 facteurs d'éveil. Nous développons à présent cette attention à la respiration en prenant conscience du mouvement de la respiration dans le corps tout entier. Nous commençons par prendre délibérément 3 profondes respirations. Puis nous laissons la respiration reprendre un rythme naturel. Tandis que la respiration reprend un rythme naturel, nous étudions de près la longueur du souffle. Nous constatons qu'après avoir été long, il devient plus court et plus léger. En observant ainsi de près la longueur du souffle, nous éveillons le deuxième facteur d'éveil, l'investigation. Soutenu par cet élément d'investigation, voire de curiosité, nous suivons la respiration de près, conscients de la longueur de chaque inspiration et de chaque expiration. Lorsque cette pratique a donné une certaine stabilité à l'esprit, nous passons à la conscience de tout le corps comme objet principal de l'attention. L'ensemble du corps en position assise devient le point d'intérêt principal, tandis que la respiration passe à l'arrière-plan, dans la conscience périphérique. Le corps étant un objet plus large que le souffle, naturellement notre champ de conscience s'élargit. Cette nouvelle perspective de l'attention nécessite de l'énergie, puisqu'il s'agit de continuer à maintenir l'inspiration et l'expiration dans la conscience périphérique, tout en s'occupant de tout le corps dans la posture assise comme objet principal d'attention. Énergie, continuité dans l'effort, c'est le troisième facteur d'éveil, l'énergie. Lorsque nous sommes attentifs à l'ensemble du corps, en même temps qu'à la conscience périphérique de la respiration, l'activité corporelle s'apaise naturellement progressivement. Un profond sentiment de détente se produit dans le corps. Toutes les tensions qui pourraient encore exister sont relâchées. Détente. La respiration est paisible. Le corps est paisible. Cette paix résulte de l'absence d'agitation. On ne ressent aucun besoin de bouger. L'activité corporelle s'est apaisée naturellement. De ce bien-être profond, de cette tranquillité du corps, ainsi que de la sensation agréable d'être présent dans l'instant, la joie peut apparaître. La joie, c'est le fruit de toute notre pratique jusqu'à ce jour. L'observation des préceptes éthiques. La motivation, le fait d'avoir consacré du temps à la pratique de la méditation, le sentiment de marcher sur les traces du Bouddha. Tout cela nous apporte de la joie. Et la joie, c'est l'expérience du quatrième facteur d'éveil. Ce ressenti est parfois très subtil, mais cela n'a pas d'importance. Permettons simplement à la joie de se manifester de quelque manière que ce soit. Expérimentons la joie tout en étant conscients de l'inspiration et de l'expiration en périphérie. Et puis, tôt ou tard, la joie se transforme naturellement en un ressenti plus posé, plus tranquille. Et si, pour une raison particulière, nous n'avons éprouvé aucune joie auparavant, cette paix, ce bonheur sont toujours possibles. C'est le bonheur du contentement qui est très important dans la pratique de la méditation. Contentement parce que nous faisons notre part, parce que nous nous consacrons à la pratique. Alors nous nous contentons ensuite des résultats qui se manifestent. Pas de désir, d'envie ni d'agitation. Contentement. Le bonheur du contentement est toujours possible. Vivre ce bonheur. Permettre à tout notre corps et à notre esprit d'être imprégné de ce bonheur. Et maintenant, nous prenons conscience de l'activité mentale. De même que pour la contemplation du corps, nous avons laissé la respiration passer dans la conscience périphérique, nous laissons à présent la sensation agréable d'être dans le moment présent passer dans la conscience périphérique avec la respiration. Cela renforcera notre capacité à ne pas nous laisser emporter par les pensées. Notre attention s'ouvre et nous laissons l'activité mentale se manifester de la manière qu'elle souhaite, avec des perceptions, des pensées. En nous appuyant sur ce point d'observation privilégié, établi dans la continuité grâce à la conscience périphérique de la respiration et de la sensation agréable d'être ancré dans l'instant présent, nous apprenons à observer le jeu de l'esprit, mais sans y participer. Cette étape nous permet de faire une découverte capitale. Il est possible de méditer même lorsque des pensées occupent l'esprit. Il suffit de prendre du recul et d'observer la pensée elle-même. Il suffit de savoir qu'il s'agit simplement d'une pensée pour ne plus être emporté par elle. On regarde l'activité mentale sans y participer. C'est extrêmement libérateur. Et le sentiment agréable d'être dans le moment présent est notre outil principal. Nous l'utilisons habilement pour pouvoir remarquer l'instant où nous sommes sur le point de nous laisser emporter par le flot des pensées. C'est-à-dire l'instant où la conscience de l'instant présent est sur le point d'être perdue. Le sentiment agréable de la présence dans l'instant nous permet de gérer facilement la complexité de l'activité mentale. Ainsi, nous apprenons à regarder le jeu de l'esprit sans nous impliquer. Comme une mère qui regarde avec indulgence les jeux de ses enfants sans y participer. Nous ne faisons qu'observer l'activité mentale. Et plus nous sommes capables de ne pas nous laisser emporter, plus l'activité mentale se calme naturellement, sans effort. Nous relâchons simplement tout résidu de tension mentale et l'activité de l'esprit diminue naturellement. Elle s'apaise. Un ressenti de détente profonde apparaît. cet apaisement naturel de l'activité mentale, complète le développement du calme, de la tranquillité. Nous avons d'abord accueilli la tranquillité corporelle, maintenant c'est la tranquillité mentale. Et c'est le cinquième facteur d'éveil, le calme, la tranquillité. Maintenant, grâce à l'apaisement de l'activité mentale, il devient possible de faire l'expérience de l'esprit en tant que tel. C'est comme plonger profondément dans l'océan, bien loin des vagues de la surface de l'eau. Plonger profondément dans l'esprit. Expérimenter l'esprit en tant que tel. Avec sa capacité de connaissance à l'état brut. Calme profond. Aucune activité mentale n'est perceptible. L'activité mentale s'est calmée pour révéler l'esprit en tant que tel. Pendant tout ce temps, nous sommes conscients de l'inspiration et de l'expiration maintenues dans la conscience périphérique. Il y a parfois un sentiment de crainte à rencontrer l'esprit dans cet état, tellement calme, vide de l'agitation habituelle. Mais de cette rencontre avec l'esprit vaste et silencieux, la joie naît naturellement. Une joie qui nous touche beaucoup plus profondément que la joie et le bonheur ressentis auparavant. Une joie profondément calme et immobile. La joie de l'esprit immobile. Et tout au long, nous sommes conscients de l'inspiration et de l'expiration. Et puis l'esprit immobile, l'esprit heureux, passe naturellement à une autre étape. Il s'unifie. Il se concentre. Il s'agit d'une concentration qui se produit sans aucune trace d'effort ni de tension. C'est juste une confluence naturelle, comme si tout notre ressenti était pris dans une douce étreinte, de sorte que sa fragmentation habituelle disparaît. C'est un esprit unifié, composé, rassemblé. C'est le samadhi. Si à ce stade l'esprit souhaite aller plus profondément en samadhi, nous le laissons faire sans interférer, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, en le libérant de toute perturbation. Nous permettons à l'esprit d'aller en profondeur. C'est la concentration, le sixième facteur d'éveil. Quand l'esprit est allé aussi profondément qu'il le souhaite et qu'il revient, ou s'il n'avait pas envie d'aller plus profondément en samadhi, l'étape suivante commence à s'ébaucher. L'esprit se libère de tout sentiment de « je suis », de tout attachement à un « moi », à la possessivité personnelle, à tout sentiment de propriété, d'identification. C'est l'abandon du fardeau du moi, la libération de l'esprit. On respire sans que quelqu'un respire. Libérer l'esprit dans la vacuité est une véritable libération. On libère l'esprit afin qu'il atteigne un équilibre, un superbe degré d'équanimité. C'est Upekkha, le septième facteur d'éveil. Après cette troisième tétrade, les sept facteurs d'éveil sont apparus. L'esprit est à la fois enrichi par la présence de l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et maintenant l'équanimité. Avec la présence continue en esprit des sept joyaux que sont les facteurs d'éveil, nous contemplons maintenant l'impermanence. En réalité, l'impermanence a toujours été à l'arrière-plan de cette pratique, dans l'alternance des inspirations et des expirations. Mais maintenant, elle passe au premier plan de l'attention. Nous observons tous les phénomènes dont nous percevons le changement. C'est ainsi que nous pouvons analyser l'expérience de la respiration en termes des cinq agrégats. En effet, quand nous constatons que l'air entre et sort, c'est dû à un mouvement dans le corps. Le premier agrégat, le corps ou l'agrégat de la forme, est changeant. La sensation causée par la respiration, généralement une sensation neutre lorsque l'air entre et sort. Et bien cette sensation, c'est Vedana, le ressenti, le deuxième agrégat. Le discernement, la capacité à identifier le souffle en disant ceci est une inspiration, ceci est une expiration. Ce discernement, c'est la perception, le troisième agrégat. L'intention, le fait de vouloir rester avec la respiration, de ne pas laisser l'esprit vagabonder. Cela, c'est sankhara, la pensée ou formation mentale volitive. Le quatrième agrégat. Quant à la conscience de tout cela, c'est le processus de la conscience sensorielle, le cinquième agrégat. Et dans cette pratique, nous voyons que tous ces agrégats qui composent l'ensemble corps-esprit changent constamment. Changement, impermanence. Nous pouvons aussi relier cette étape et les trois suivantes aux différentes phases de la respiration. Pour cela, la respiration doit revenir au premier plan de notre champ d'attention, pour que nous puissions discerner non seulement l'entrée et la sortie de l'air, mais aussi les différentes phases du souffle. Nous pourrons ainsi relier l'expérience de l'impermanence à la conscience des trois phases de la respiration, le début, le milieu et la fin de chaque inspiration, le début, le milieu et la fin de chaque expiration. Et puis nous passons de l'impermanence au lâcher-prise des désirs. Nous permettons au flux de l'impermanence de laver nos désirs et nos aversions, de laver nos attachements, de transformer notre attitude. Si nous souhaitons travailler plus étroitement avec la respiration à ce stade, nous pouvons prêter attention uniquement au milieu et à la fin de l'inspiration et au milieu et à la fin de l'expiration. La respiration reste entièrement naturelle. Il ne s'agit en aucun cas de la modifier, mais simplement d'être attentif, en accordant moins d'attention au début et plus d'attention, plus d'emphase, aux changements ressentis pendant la phase de durée, puis la phase de la disparition du souffle. On constate le changement dans la durée, puis la disparition. Cette observation est simplement un outil pour soutenir cette contemplation du lâcher-prise des attachements. Avec la diminution de l'attachement aux désirs et aux aversions, il devient plus facile de permettre que tout ait une fin, d'accepter de voir la fin de toute chose. C'est l'étape de la cessation. Pour relier tout cela à la respiration, nous accordons toute notre attention à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Disparition, extinction, cessation. Nous travaillons ainsi à contre-courant de la tendance normale de ne percevoir, de ne s'intéresser qu'à ce qui est nouveau, ce qui est jeune et frais, à ce qui commence, et tendance à ignorer ce qui est vieux, sur la fin, en train de disparaître. En allant à contre-courant de cette tendance, nous donnons désormais toute son importance à la vérité absolue de l'impermanence, au fait que les choses se terminent, qu'elles cessent, qu'elles s'évanouissent, qu'elles disparaissent. Le corps, les ressentis, les perceptions, les souvenirs, les formations mentales, la conscience sensorielle, chacun de ces agrégats est destiné à cesser, à disparaître, à s'évanouir. Et plus nous apprenons à faire face à la cessation, à être à l'aise avec elle, plus il nous devient facile de lâcher ce à quoi nous nous accrochions jusqu'à présent. Nous cessons de nous accrocher à des choses qui, de toute façon, changent et disparaissent. C'est le lâcher-prise. Quels désirs peuvent demeurer? Quels attachements peuvent demeurer? Lâchez prise. Et pour relier cette contemplation profonde à la respiration, nous pouvons maintenant donner toute son importance à l'espace qui existe entre l'inspiration et l'expiration. à l'espace entre l'expiration et l'inspiration. Presque comme si nous utilisions cet espace pour lâcher prise. Nous pouvons même attendre que le prochain souffle vienne de lui-même. Il ne s'agit pas de retenir le souffle, pas du tout. Simplement, au lieu de nous lancer dans l'inspiration ou l'expiration suivante, nous nous détendons dans cet espace vide et nous attendons que le mouvement suivant se produise de lui-même. Abandonner nos attachements, abandonner notre tendance à nous accrocher aux choses, abandonner la vision erronée que nous avons du moi, notre identification à cet ensemble corps-esprit, notre appropriation de cet ensemble corps-esprit, et finalement, abandonner tout ce qui est conditionné pour plonger dans l'inconditionné, la paix suprême, le bonheur suprême, la suprême liberté du Nibbana. En lâchant prise, il n'y a rien que nous puissions perdre. Nous avons tout à gagner. Après avoir passé un certain temps sur le lâcher-prise, nous pouvons avoir envie de reprendre l'une ou l'autre des quatre tétrades et de la parcourir plus lentement. Toutefois, il serait bon à la fin de revenir sur cette dernière tétrade pour terminer la méditation de l'attention à la respiration en repassant par l'impermanence, le détachement des passions, la cessation et le lâcher prise. Continuez à pratiquer comme cela. Pour terminer, dédions le mérite de cette pratique à tous les êtres qui souffrent dans ce monde. Puissent tous les êtres trouver la voie de la libération de la souffrance. Puissent tous les êtres trouver le véritable bonheur et la paix.